Chapitre 13. Le festin après la chasse. Four souterrain. Une épaule de bison. Un conseil du Canadien. Nuit sous la tente. Une apparition. La face noire. L'examen d'un sauvage. Le fusil. Le poignard en arête de poisson. Un ami qu'on n'attendait pas. Allocution de Waitahu au renard au museau noir. Le chef, le baillon, fuite, les sentinelles, chasse aux chevaux sauvages, le pont du Rio, chasse aux daims, les émigrants. Tandis que Robert Kergorieux prenait quelque repos sous une espèce de tente formée de nattes de jonc, le chef donnait des ordres pour qu'on allât quérir les buffles qui avaient été laissés sur le champ de bataille. 12 cavaliers se remirent aussitôt en marche. Waitahu ne faisait point partie de cette expédition délicate. Il avait à remplir des fonctions qui ne manquaient pas non plus d'importance. Notre jeune Breton aurait pu voir le Canadien creuser en terre une sorte de souterrain éclairé par de légères issues pratiquées à la manière des soupiraux. « Voilà le four terminé. Qu'on aille quérir du bois mort !» Une seconde escouade partit pour le bois prochain. Robert Kergorieux avait sous les yeux la vie sauvage dans toute sa vérité. Tout à l'heure, les nomades faisaient la chasse à de terribles animaux. À présent, ils se disposaient à prendre leur repas du soir et chacun d'eux avait son rôle dans l'action. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que tout le monde était de retour. Les uns rapportaient sur les chevaux les bisons tués, les autres faisaient du feu. Il y en avait qui, armés de coutelas, dépouillaient les bêtes de leur peau. On multiplia les fours pareils à celui qu'avait si ingénieusement creusé en terre le Canadien Waitahu. Bientôt, une odeur de viande grillée parfuma tout ce canton. Les buffles dépecés n'étaient conservés que par quartier. On allait jeter à 300 pas, un peu plus loin même, les parties grossières des animaux qu'on ne voulait pas exposer à la cuisson. « Ces débris-là, dit le chef, sont pour les loups, pour les vautours et même pour les renards. » « Mais pourquoi vous inquiétez de ces hôtes incommodes, renards, vautours et loups? Est-ce qu'ils ne sont pas vos ennemis ?»«
Homme pâle, répliqua le sauvage, on voit bien que tu ne comprends rien au charme de la vie des savanes. »«
Expliquez-moi vos plaisirs et je les comprendrai. »«
D'abord, en nourrissant les loups, les vautours et les renards, nous sommes sûrs que nous, nos femmes et nos enfants, nous serons moins inquiétés. »«
C'est juste. »
Ensuite, nous savons que les animaux voraces, se fixant sur leur proie, demeureront là plusieurs heures. Nous irons alors, par forme d'amusement, les chasser pendant la nuit. Enfants d'au-delà des grands lacs salés, vous ne pouvez pas connaître la joie des hommes des déserts. Lorsque l'hiver a rendu toute autre chasse impossible, nous nous plaçons en embuscade. Et quand au clair de lune les loups et les renards viennent rôder et sauter après la viande suspendue, nos flèches éclaircissent leurs rangs. La musique de leurs hurlements nous amuse, mais j'en ai assez dit. Allons voir où en est le festin. »
Robert Kergorieux suivit pas à pas le sauvage et fit avec lui l'inspection du campement. Les quartiers de bœufs rôtissant sur les charbons ou à des brochettes de bois vert était une nouveauté pour ses yeux. Ici, sa pensée s'éveillait. Il s'engageait comme malgré lui dans une longue méditation sur la vie civilisée et sur l'existence des déserts. Dans nos orgueilleuses cités, pensait-il, des milliers d'êtres humains sont en proie aux angoisses de la faim. S'ils venaient par ici, ils verraient de combien de richesses l'homme de la nature peut disposer. L'eau, le bois, la viande, l'espace ne coûtent rien. Voilà une abondance dont les gastronomes les plus intrépides n'auraient pas aisément l'équivalent en Europe. Je sais bien tout ce qui manque à ces nomades. Convenons néanmoins qu'ils ont une existence colorée, pleine de mouvements,
qui a bien aussi sa poésie. Que de grandes forêts, que de beaux fleuves! Les arbres les plus solides fournissent des piliers à leur demeure, des fruits à leur fin, des fleurs à leur parure. Eux aussi ont leur guerre comme les civilisés, mais surtout la guerre contre les monstres, contre les forces de la nature, plus rarement contre eux-mêmes, de tribu à tribu. Encore une fois, l'état de leur esprit inculte et de leur âme privée des notions de la morale divine est bien fait pour affliger, mais à part ces réserves, il est curieux de vivre un instant parmi eux.
« Il n'y a plus qu'à s'asseoir sur l'herbe et à manger, » dit le chef. « Voilà la cuisine terminée. »
Robert Kergorieux fut donc invité à s'asseoir dans un bas-fond de la savane, entre le chef et Waitahou, sous quelques arbres au bord d'un petit ruisseau. Le Canadien, qui connaissait assez les usages de la société civilisée pour prévoir les besoins et les prédilections d'un Européen, avait disposé des feuilles de palmier en guise d'assiette.
« Nous allons dîner d'une excellente bosse de bison, » dit-il ensuite au filleul du corsaire.
Très souvent, sur le tillac des navires, pendant les longues heures de la traversée, Robert Kergorieux avait entendu parler de ce rôti par excellence qu'on appelle une bosse de bison. Il n'ignorait point que les sauvages excellent à préparer ce genre de mets. La tradition raconte que c'est ce qu'il y a de plus délicat dans la bête.
« Vous le voyez, » reprit le Canadien, « ce morceau, après avoir été enveloppé dans sa peau, a été soumis le temps convenable à l'action du feu dans un four creusé sous terre. Il va vous offrir à la fois une chair tendre et une nourriture substantielle. »
Le chef vantait aussi ce repas.
« Tiens, homme blanc, » disait-il, « coupe plus près du milieu de la bosse. C'est là que tu trouveras les véritables délices de la nature. Il n'y a pas besoin d'épices ici, ni de la moutarde piquante des hommes de ta couleur pour donner à ce plat un goût étranger. »
Robert Kergorieux trouvait en effet que la bosse de bison était un mets incomparable. « Si j'avais seulement un verre de vin du Cap, deux ou trois gorgées d'hydromel ou de la bière, » dit le Breton, s'arrêtant malgré lui pour respirer, « je jurerais que jamais voyageur n'a fait un meilleur repas. »«
Attends, homme pâle, on va te donner à boire. »
Le chef fit un signe de la main. Un des plus jeunes Indiens de la horde apporta deux jarres.
« Dans l'une, » reprit le chef, « il y a de l'eau claire, puisée à un ruisseau qui sort des rochers. Rien de plus pur, de plus frais, ni de meilleur pour clarifier le sang. Dans l'autre, c'est de la pulque, liqueur fermentée de l'aloès, assez amère pour les Européens, mais fort aimée des hommes de ce pays. »
Robert mangea et but. Le souper terminé, le chef se leva et presque au même instant les sauvages, répandus sur toute l'étendue de la savane, en firent autant.
« Seigneur, dit le Canadien au jeune Français, vous voyez qu'on organise le campement pour la nuit. Tout à l'heure, vous irez vous reposer sous la tente. Mais, je vous en conjure, n'oubliez pas de veiller sur votre carabine. »
« Pourquoi revenir à cette recommandation ? Demanda Robert Kergorieux. Waitahou regarda autour de lui afin de voir s'il n'était pas épié, puis, à voix basse, il reprit la parole.
« Seigneur, les sauvages au milieu desquels vous vous trouvez en ce moment ont deux défauts qu'ils regardent comme des qualités. Ils sont dissimulés et voleurs. Par tout ce que j'ai vu, il m'est démontré que le chef a la plus grande envie de s'emparer de votre fusil. C'est pour le détourner de ce désir que je vous ai fait lui abandonner un poignard. Mais une arme à feu passe avant tout dans l'esprit des hommes de la savane. Toutes les prévenances dont vous avez été l'objet jusqu'à ce moment n'ont eu que votre carabine pour but. Le chef ne vous la demandera pas. Il croirait rabaisser sa dignité en formant une prière à cet égard. Il ne vous la volera pas non plus lui-même, mais il vous la fera dérober par un des hommes de la tribu. Ainsi, tenez-vous sur vos gardes. J'en ai assez dit. Du reste, le voilà qui revient. Vous allez voir qu'il continuera à être très caressant dans ses paroles. Homme blanc, tu vas voir comment les enfants de la savane passent la nuit. »
Tous les sauvages s'étaient rassemblés à quelques pas de leur chef. On se distribua de nouveau les rôles. Plusieurs des chasseurs dressèrent des tentes. D'autres, s'écartant un peu sur la lisière du campement, firent de grands feux pour écarter les bêtes féroces, alléchées autant par les restes du festin que par le voisinage du camp. On conduisit Robert Kergorieux dans la tente du chef qu'il avait déjà occupée. En même temps, plusieurs sentinelles furent posées sur les points les plus importants. La lune glissait dans un ciel pur, tout brillant d'étoiles. Pendant quelques instants, le jeune Breton se mit à contempler avec ravissement cette nuit majestueuse des tropiques. Un vent frais et léger, qui agitait par moments le feuillage dentelé des grands arbres, contribuait à entretenir sa rêverie. Il repassait dans sa pensée quelques-uns des derniers épisodes de son voyage, la mort du pauvre Jacques, le nouvel éloignement d'Horace Verpré et la disparition de Claude Marteau. Sans ces tristes événements, rien n'aurait affligé son esprit. Il aurait pris un très grand plaisir, au contraire, à se trouver au milieu de peuplades dont les mœurs étaient si pittoresques. Cependant, la fatigue inclinait peu à peu son front sur la natte en paille de maïs, qui était étendu à l'entrée de la tente. Quoiqu'il n'eût pas oublié les dernières recommandations du Canadien, il laissa le sommeil courber un à un ses membres et sa pensée. Son fusil, il est vrai, était placé entre ses jambes. On va voir jusqu'à quel point cette précaution pouvait être un bon préservatif. La nuit était déjà fort avancée. On n'entendait que le bruit du vent dans les feuilles des arbres ou, par de longs intervalles, la plainte des oiseaux nocturnes ou tout au plus le rugissement des tigres et des panthères que les feux du camp éloignaient dans la profondeur des bois. Robert Kergorieux dormait. Un peu plus loin, dans la même tente et sur une autre natte aussi en paille de maïs, reposait le chef, dormant de même ou ayant l'air de dormir. Tout à coup, une tête noire parut à l'entrée du wigwam. C'était l'un des Indiens qui s'approchait de l'Européen. À la faveur de l'herbe touffue, il s'était frayé un chemin à travers cette couche épaisse, comme un serpent perfide qui se glisse vers une proie. Plus il était près du jeune homme, plus il redoublait de précautions. Très certainement, le plus adroit reptile n'aurait pu ramper avec plus de souplesse, ni avec moins de bruit. Accroupi jusqu'à terre, il avançait un pied, puis l'autre, s'arrêtant à chaque mouvement pour saisir le plus léger bruit qui aurait pu annoncer que le jeune voyageur était sur ses gardes. Il réussit enfin à outrepasser le seuil de la tente, et c'était un acte d'incroyable hardiesse et de grande profanation, puisque c'était là qu'habitait le chef. Mais, après avoir montré sa tête mobile, il reprit une certaine assurance. Qu'avait-il donc vu? Est-ce qu'un regard l'avait encouragé? Est-ce qu'un signe lui avait dit de continuer? Il se mit à ramper encore et entra tout à fait dans l'enceinte. Ici, le nouveau venu parut se recueillir un instant. Il paraissait écouter le bruit de la respiration prolongée du jeune homme qui dormait. Mais cet Indien connaissait trop toutes les ruses de guerre pour se laisser prendre au piège d'un sommeil factice. N'étant donc pas entièrement convaincu par une première inspection, il écouta de nouveau, et alors, s'étant assuré que le bruit de la respiration était des plus naturels, il n'hésita plus. Pour un homme des savanes, pour un sauvage, il fallait une certaine dose d'audace en s'aventurant ainsi au moment où un blanc prenait son sommeil. Dans les prairies, on savait que les enfants de l'Europe sont braves, qu'ils font pour un rien le sacrifice de leur vie, qu'ils sont généralement forts et possèdent plus de ressources de combat que les Peaux-Rouges ou les Aztèques. Mais lorsqu'il fut certain de n'avoir pas été découvert, il s'approcha du dormeur, se pencha sur lui et, tandis que sa face noire voltigeait en quelque sorte autour de celle du jeune blanc pour l'examiner dans tous les sens, On eût dit une de ces vipères qu'on voit souvent se dresser en jouant autour de leur victime. Content d'avoir bien examiné, il se retirait lorsque Robert Kergorieux fit un mouvement subit comme s'il allait se réveiller. En moins de temps qu'il n'en faut pour lancer un regard, le sauvage saisit une espèce de couteau en arête de poisson qui pendait à sa ceinture et il reprit ses allures agressives auprès de l'Européen. Puis, tout à coup, changeant d'idée, il se retira d'un pas par un mouvement d'une rapidité prodigieuse, se blottit dans un coin enveloppé d'obscurité et ne souffla pas. Quant à Robert Kergorieux, il ouvrit une seconde ses yeux appesantis, regarda le ciel par la très étroite ouverture de la tente et murmura ces paroles en français. « Non, Dieu merci, non, personne ne me menace. Ce n'était qu'un rêve, un cauchemar. Dormons encore. » Il se rendormit, en effet. Le sauvage ne bougea pas d'abord. En démon côteleux et rusé qu'il était, comme tous ses frères à peau bistrée de ses solitudes, il ne voulait pas se fier aux premières apparences du sommeil. Mais les fatigues d'une journée de marche, la chasse et l'énergie du climat pesaient trop visiblement sur le jeune blanc pour qu'on pût croire que ce repos était simulé. Néanmoins, ce ne fut qu'avec lenteur et par degrés que le guetteur se mit à s'avancer pour la seconde fois. L'Indien laissa courir sur ses lèvres un sourire étrange. Il venait de découvrir, à l'aide d'un rayon de la lune, une lueur argentée et fugitive que le dormeur, insoucieux des avis qu'on lui avait prodigués, avait laissé sa carabine rouler à côté de lui sur la natte. Il ne restait plus entre ses jambes, ou plutôt sur l'une de ses cuisses, que la crosse, et il suffisait d'un habile mouvement pour la dégager. Tout en cherchant les moyens d'amener cette imperceptible secousse, l'homme des savanes regardait l'un après l'autre et considérait le coup nerveux et les bras athlétiques de Robert Kergorieux. Imaginez la stupeur arrogante d'un lièvre qui apercevrait un lion endormi. Un moment, il plongea aussi les yeux du côté où le chef, couché dans une immobilité complète, paraissait endormi. Un doigt de la main droite qui venait de remuer dans l'ombre lui intimait-il un ordre ? On peut dire seulement qu'il se remit à son travail d'analyse, si long et si difficile. Enfin, paraissant rassembler toute sa volonté et toutes ses forces, il posait avec prestesse la main sur l'arme du jeune homme, lorsqu'un bras moins noir et plus nerveux que le sien se posa sur sa main et qu'une tête se dressa tout à coup en face de la sienne. Il reconnut Waitahou, le Canadien. Se voyant surpris, le sauvage se dégagea et se leva. Il ne mit pas plus d'une seconde à sortir de la tente. Presque au même instant, il retrouvait le Canadien en face de lui. « Ah, c'est toi, renard au museau noir ! Ah, c'est toi qui viens violer ici, sous la tente du chef, les droits de l'hospitalité ! Le grand esprit m'avait suggéré la pensée de ne pas te perdre de vue. Il y a déjà pas mal de temps que je te suis des yeux. Tu étais donc sûr de l'impunité du chef, que tu venais sous sa propre tente avec l'intention de voler et peut-être de tuer l'homme blanc ? Mais tu ne sais donc pas que l'innocent n'est jamais seul. Le grand être est toujours placé à côté de lui, sous une figure invisible, ou bien, s'il veut se faire voir, il emprunte la physionomie d'un homme. Car il veut que toute mauvaise action ait un témoin, d'abord, et ensuite une condamnation. C'est moi qui l'a choisi aujourd'hui pour voir le vol que tu voulais faire. Détestable enfant des savanes, tu ignores donc combien tu courais de dangers, sans compter le poids de la colère céleste ? Ce jeune homme pâle qui dort est un héros parmi les siens. Je l'ai vu dans l'Inde en d'autres temps. Il n'y a pas dans toutes les prairies de blancs qui sachent mieux se servir de l'arme à feu. Il t'aurait tué d'un geste comme il a tué hier au soir un buffle qui nous poursuivait tous. Suppose-le seulement armé d'un poignard. Il te percerait le cœur comme un aigle brise d'un coup de bec un régime de bananes. « Va, enfant maudit, je t'ai sauvé de toi-même, du jeune blanc et du grand esprit. »« Waitahou, répondit la face noire en prenant un air de bon apôtre. « Tu n'es pas de notre tribu. Tu es du pays des neiges et tu juges mal par conséquent les actions, les démarches et les faits de frères adoptifs que tu connais à peine. C'était pour l'arme à feu du jeune homme pâle que j'accourais dans la tente du chef. Je ne le nie pas, mais c'était la curiosité seule et non l'idée du vol qui m'y conduisait. Tuer l'homme pâle? Comment y aurais-je songé? D'abord, il est l'hôte du chef et de la tribu, et par conséquent sacré. Ensuite, il est à tout prendre beaucoup plus fort que moi. Tu conviens toi-même qu'il me coucherait à terre d'un seul geste. Mais j'ai voulu voir des yeux et ensuite toucher son fusil. Je ne cache pas qu'il m'eût été agréable de m'en servir quelques instants pendant cette nuit, en prenant pour but une panthère noire vagabonde ou un caïman sorti des cours d'eau. Mon désir accompli, j'eusse rapporté l'arme à sa place avant l'arrivée du jour, et le jeune homme pâle ne se serait aperçu de rien. »
Waitahou fit un geste de dénégation.
« Renard au museau noir, reprit-il, tu as le cœur du serpent et le babil menteur du perroquet. Te voyant surpris, tu n'as même pas le courage d'avouer que tu voulais mal faire. Tu ruses indignement. Quant à moi, je n'ai aucun doute. Ah, je sais ce que tu venais prendre, et pour quel motif ? Il n'y a qu'un point sur lequel je ne sois pas fixé. C'est de savoir si tu agissais pour toi ou bien pour le compte d'un autre. Mais c'est une obscurité qui ne tardera sans doute pas à être éclaircie. »
Il lui montra du doigt les autres tentes.
« Rejoins le wigwam, reprit-il. C'est assez d'une offense au grand esprit. Si tu recommençais, il te surveillerait encore sans se fatiguer, soit par moi, soit par un autre, soit par lui-même.
« Waitahou, tu parles comme le vent réparateur après la pluie d'orage, » répondit le renard au museau noir, et il disparut. Le Canadien se retira aussi d'un autre côté. 5 minutes environ après ce que nous venons de rapporter, une nouvelle scène se passait dans la tente. Les sauvages de l'Amérique ont l'oreille excessivement subtile. Au bruit de la dispute, qu'il avait vu commencer pendant qu'il feignait de dormir, le chef s'était levé, puis, s'approchant de la porte, il avait attendu que les deux contradicteurs se séparassent. Revenant alors près de la natte de Robert, il paraissait hésiter entre l'action de se rendormir et la tentation de s'emparer de l'arme. Ce fut ce dernier parti qui lui sourit le plus sans doute, car il souleva le fusil et s'apprêtait à le faire jouer, quand une main rapide, invisible, le lui enleva alors comme un enfant ferait d'une plume. Il se retourna et aperçut le Canadien.
« Ah, c'était donc pour toi !» s'écria cette fois Waitahou. « Que le renard au museau noir venait ici ? Mais c'est assez de 2 tentatives. Debout, seigneur !»
Ici, Robert Kergorieux se réveilla en sursaut et se leva à son tour.
« Seigneur, reprit le Canadien, pas de faiblesse. Cette tribu est un ramas de vauriens. Ils en veulent à votre arme, peut-être à votre vie. Il faut partir. En attendant, celui-là ne doit pas sortir d'ici pour contrarier notre marche. »
En parlant ainsi, il couvrait la tête du chef d'une sorte de filet qui servait aussi de bâillon. Puis, à l'aide d'une forte courroie, il attachait le sauvage à un pieu.
« Nous partons, traître !» lui disait-il ensuite. « Il y a une chose sacrée parmi les tribus, c'est l'hospitalité, tu l'as violée. Va, le grand esprit te jugera un jour avec la dernière rigueur. »
Le chef, plein de rage, cherchait tour à tour à crier et à se dégager, mais sans pouvoir y parvenir.
« Partons maintenant, seigneur, et sans retard. Qui sait ce qu'il nous ferait dans quelques instants s'il nous surprenait ?»
Il s'échappait par une des lisières de la forêt. Là, 2 sentinelles voulurent les empêcher de fuir. Il suffit à Robert Kergorieux de leur montrer le canon de son fusil.
« Une arme à feu, ils aimeraient mieux 20 coups de là !»
Ils marchèrent avec une très grande rapidité, laissant derrière eux marais, vallons, collines et bouquets de bois. S'ils enfourchent leurs petits chevaux noirs et qu'ils courent après nous, disait Robert, ils nous atteindront.
Ce n'est pas sûr, répondit le Canadien. D'abord, ils ne savent pas par où nous avons pris. Ensuite, nous allons avoir, nous aussi sans doute, des chevaux à notre disposition. Comment faire pour cela ?
Vous allez voir, Seigneur.
Il venait d'entrer sur le territoire d'une nouvelle tribu. Un fleuve, encaissé entre deux colonnes de roc, coulait avec fracas. Sur le fleuve était suspendu un de ces ponts en liane qui sont d'un si bel effet et d'une si grande nécessité aux habitants de la contrée. Au bord de la rivière, des chevaux sauvages, assez faciles à prendre, buvaient et se rendaient à la rive opposée.
« Tenez, Seigneur, passez le pont. Des gens de la tribu voisine qui s'y trouvent vous aideront et feront le guet avec vous. Une heure ne se passera pas avant que nous ayons chacun un excellent coursier. »
En même temps, il allait lui-même donner l'éveil aux chevaux qui, se sauvant à la nage, arrivaient sur l'autre bord. C'était là que Robert Kergorieux et ses auxiliaires en arrêtaient deux au passage.
« Vous allez voir combien Waitahou s'entend à soumettre ces bêtes indomptables !»
En effet, sans mort, sans bride, sans selle et sans éperon, rien qu'avec la main et une houssine, le Canadien disciplinait les deux bêtes.
« Vous pouvez monter celui des deux coursiers qu'il vous plaira »
ajouta-t-il. Ils firent l'un et l'autre leur choix et partirent. Ces excellents chevaux, nés et ayant grandi au milieu d'une nature merveilleusement accidentée, ne s'effrayaient d'aucune des difficultés du chemin. Leurs jambes de bronze s'appuyaient même sur le bord des précipices ou sur ces passerelles ténues et fragiles que les Américains jettent au-dessus des cascades écumantes et des torrents. Ce qui me console, au milieu de toutes mes misères, disait le jeune Breton à son nouvel ami, c'est que désormais, je pourrais me flatter d'avoir fait à peu près tous les genres de chasse, la chasse au crocodile, la chasse à l'hippopotame, la chasse au tigre, la chasse à l'éléphant, la chasse au buffle et la chasse aux chevaux sauvages.
Seigneur, il vous manquera encore la chasse aux daims, telle qu'on la pratique en Amérique, mais il sera facile de vous faire voir en quoi elle consiste.
En effet, à quelques jours de là, comme il traversait une des vastes prairies du Nouveau Monde, le Canadien dit
« Ce soir, à la nuit tombante, près de 6 000 daims traverseront ces herbages. Vous verrez alors de quelle façon nous nous y prenons pour en tuer un grand nombre. »
À l'heure convenue, Waitahou, qui s'était procuré une peau de daim haut encornée, se l'ajusta comme on fait d'un déguisement en temps de carnaval. Puis, après s'être muni de son arc et de ses flèches, il se posta derrière un massif d'arbres.
« Regardez bien, Seigneur !»
Les daims, les femelles et les mâles, apercevant de loin, à la lueur des étoiles et de la lune, la haute ramure du chasseur, croyaient que c'était un des leurs et s'approchaient sans méfiance. Tout en dissimulant ses mouvements, Waitahou les ajustait dans les arbres et en faisait tomber un grand nombre. Les daims, loin de soupçonner qu'ils avaient affaire à un chasseur, n'en venaient pas moins jusqu'à lui. Robert Kergorieux s'émerveilla beaucoup de cet expédient, vraie ruse de sauvage. Ils s'engagèrent alors dans les pampas, pleines de sable de l'Amérique du Sud.